Sophie Chauvelier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérante chez Dorval Asset Management. On va parler avec vous des marchés, des perspectives sur ces marchés. Bien sûr, le Brexit, on est quelques jours après cet événement pour les marchés. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la période, il faut être prudent sur l'investissement en actions?
Alors, c'est une question qui est compliquée puisqu'on a bien vu effectivement que le Brexit a donné lieu à une correction très notable des marchés, principalement européens, même s'il y a eu des baisses ailleurs. Et puis, un début de rebond, une amorce de rebond. Il est évident que, en fait, le Brexit, on peut l'assimiler à une sorte de Lehman politique. Donc, c'est un climat d'incertitude politique très fort qui va maintenir une prime de risque sur l'Europe. Maintenant, ce Lehman politique n'est pas un Lehman financier ou économique. Ce qu'on constate dans quelques jours après le vote, c'est qu'il n'y a pas de tension sur les spreads obligataires dans les pays de l'Europe du Sud, par exemple, qui sont les pays fragiles. Il n'y a pas non plus d'incidence économique évaluable. Donc, est-ce que finalement, on va avoir des incidences économiques ou pas? Et je dirais que quelque part, c'est le cœur de la question, si on fait abstraction, bien entendu, du risque politique qui pourrait renaître dans d'autres endroits que la Grande-Bretagne.
Donc on peut dire que ça a ajouté des incertitudes, mais en soi, peut-être que les investisseurs vont se focaliser sur d'autres éléments dans les prochaines semaines.
Alors, oui, d'abord, le Brexit ne va pas intervenir maintenant. Les impacts économiques sont quand même difficiles à évaluer. Historiquement, quand on a eu ce type d'événement, c'était pas vraiment équivalent, mais on a eu finalement assez peu d'impact économique. Et l'impact économique aujourd'hui pour la zone euro, alors on peut comprendre l'impact britannique, mais l'impact pour la zone euro n'est difficile à évaluer, puisqu'on a du mal à quantifier le coût de cette prime de risque politique et surtout son incidence sur l'investissement des entreprises. Comment vont réagir les entreprises par rapport finalement à cet événement? Est-ce qu'elles vont interrompre leur programme d'investissement ou non? Et ça, c'est quelque chose, bien entendu, qu'on ne pourra évaluer que dans les mois à venir.
Alors, on avait eu avant ce Brexit, bien sûr, la décision de la Réserve fédérale américaine et qui reporte sa hausse de taux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose même la question de savoir si elle va pouvoir monter ses taux en 2016. Est-ce que l'analyse de ce point de vue-là, est-ce que ça peut changer? Quelle est l'analyse que vous faites?
Alors, le Brexit conforte la Fed dans sa position extrêmement accommodante. Il n'y a pas de raison de monter les taux à court terme, il y a trop d'incertitudes. Les derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis étaient suffisamment faibles. Alors la semaine prochaine, on aura le prochain chiffre de l'emploi qui, à mon sens, sera une des données clés à surveiller. Donc l'emploi du mois de juin. Mais non, aujourd'hui, il n'y a aucune raison, la Fed n'a aucune raison de se précipiter. Elle n'a pas de tension inflationniste. Elle a certes un taux de chômage extrêmement faible, mais avec un taux de sous-emploi qui est encore élevé, des progressions de salaire, mais qui sont, entre guillemets, dans la norme, quand on les considère en termes de salaire réel. Donc pas d'accélération réelle, profonde des salaires aux États-Unis. Donc non, aucune raison pour la Fed d'être extrêmement agressive dans un contexte global incertain. Risque politique en Europe. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que la reprise en Chine, on ne sait pas si elle sera durable ou pas.
Alors, si on revient du côté de l'Europe, on avait la Banque Centrale Européenne qui était prête à faire plus. Et on pourrait dire qu'elle est toujours dans ce contexte-là. Si la Fed ne fait rien, que la Banque Centrale Européenne continue à aider, est-ce que finalement, on va éviter peut-être cette dichotomie entre les deux banques centrales, une qui commençait à relever ses taux et une qui continuait à aller au plus bas?
Oui, et vous renvoyez à la question de l'euro-dollar, par exemple. On aura, en termes de dynamique de politique monétaire, effectivement, on va avoir moins d'écart. Enfin, le point maximum d'écart qui était la Fed qui monte les taux et la Banque Centrale Européenne qui est plus accommodante est effectivement derrière nous. En tout cas, pour le moment, et tant qu'on n'observe pas de poussée inflationniste aux États-Unis.
Alors, en même temps, quand on regarde l'évolution des marchés obligataires dans le monde, en Allemagne et dans d'autres pays, on voit ces trillions de dollars et d'euros en territoire négatif. C'est quand même inquiétant pour les investisseurs qui ne savent pas trop où va se terminer cette histoire-là.
Oui, aujourd'hui, on est prêt à payer pour que quelqu'un garde notre argent. C'est une situation qui est très inconfortable, qui est inconfortable du point de vue de l'investissement, parce que ça tire à la baisse l'ensemble des rendements. Donc, mais c'est la volonté des banques centrales, hein. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est l'euthanasie du rentier. La banque centrale privilégie l'investissement au détriment de l'épargnant.
Les marchés, vous parliez de la Chine, les marchés émergents, à un moment donné, les investisseurs se sont détournés de ces marchés-là. Est-ce que de votre point de vue, il faut y revenir? Comment on regarde aujourd'hui ces marchés?
Alors, il y a des données concrètes, effectivement, qui nous ont amené depuis quelques temps à nous réintéresser aux marchés émergents. Bien entendu, il y a eu le plan de relance chinois depuis la fin de l'année dernière, donc un mix de conditions monétaires et conditions fiscales beaucoup plus accommodantes, mais on reste toujours dans une logique de mini-cycle en Chine. Mais à côté de ça, un certain nombre de pays qui avaient à peu près tous le même problème, hein, c'est-à-dire un mix croissance-inflation défavorable, c'est-à-dire avec une croissance qui avait énormément ralenti, une inflation assez élevée, qui commence à avoir mis en place un ajustement à ce propos, et on pense précisément notamment aussi beaucoup à beaucoup de pays qui sont liés aux matières premières, mais comme la Russie, comme le Brésil. Alors, hors matières premières, la Turquie, qui avait exactement le même problème de ralentissement de la croissance et de niveau d'inflation élevé. Ces pays-là, ces dernières années, ont été progressivement en phase d'ajustement. L'activité a déjà réaccéléré en Turquie, le point bas en Russie est également passé, on aura une reprise du PIB à partir du Q4, le point bas de la récession est probablement derrière nous aussi au Brésil, et le point haut de l'inflation aussi. Donc nous, on s'était plutôt intéressé effectivement à ces pays-là, sachant que malgré tout, on ne se réfugie pas dans les émergents. Donc on n'est pas dans cette logique de « je quitte l'Europe et puis je vais aller me cacher dans les émergents ». C'est pas vrai, parce qu'il y a aussi énormément de risques pour des raisons évidentes.
Justement, pour l'allocation d'actifs, comment elle évolue? Parce que certes, il faut peut-être reprendre du risque pour avoir du rendement, mais on a cette volatilité, on a ce risque potentiel à nouveau de sujets politiques. Comment doit évoluer l'allocation?
Alors, ça dépend bien entendu toujours de la version risque du client, entre guillemets, mais à mon sens, on sort d'un choix d'allocation d'actifs qui était très européano-centré, c'est-à-dire reprise européenne. On pouvait vraiment adresser cette question de la réflation en Europe, de cette dynamique positive qui était en train de se construire en Europe. Aujourd'hui, sur cette dynamique positive, il y a un point d'interrogation. Et on aura la réponse dans quelques mois. Donc on a plutôt décidé de se reporter sur l'international. Effectivement, on pouvait identifier certains points de reprise dans les émergents, donc on se tourne à nouveau vers la demande émergente, également vers la reprise du consommateur américain, qui reste toujours très très présente. Hein. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Après, dans le monde du crédit, il y a une dynamique qui est un petit peu différente. C'est vrai que l'action de la BCE est extrêmement puissante et continue à orchestrer en fait une compression des spreads dans le monde du crédit, alors même qu'il n'y a pas de détérioration des fondamentaux des entreprises. Donc le bilan des entreprises reste sain en Europe et les rendements sont tirés à la baisse par la BCE. Donc ça reste un cocktail, à notre sens, extrêmement, extrêmement favorable.
Merci Sophie Chevalier d'avoir été avec nous.
Merci, au revoir.